Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h05 sur RMC, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Très heureux de vous accompagner jusqu'à midi en direct avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Si vous avez raté le début de l'émission, on a un Christophe Cessieux très remonté. On a parlé notamment de Kylian Mbappé, mais également des sportifs russes et biélorusses qui ne pourront pas participer à la parade sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Tout ça est à réécouter en podcast. Dans un instant, est-ce que le passage éclair d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine est un désaveu pour le football féminin? On en parle avec nos GG. Et puis le débat caché à 11h30. Vous le savez, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. C'est toujours évidemment un grand moment. Et puis à 11h45, les GG contre-attaquent, les GG qui prennent les commandes de l'émission. Elles ont vendu leur débat, c'était à 10h30. N'hésitez pas à voter pour votre débat préféré sur le compte X des grandes gueules du sport. Je vais vous faire le point pour l'instant sur les votes, avec en quatrième et dernière position, c'est Denis Charvet avec son débat sur Luis Enrique sur Twitch, qui a déclaré sa flamme à Barcelone et voulait savoir ce que vous en pensiez. 18%.
Personne ne veut lui répondre.
Troisième place pour toi.
Juste devant toi.
19% avec ton débat sur Van Aert. Va-t-il se séparer de la sorcière aux dents vertes, c'est ça?
Et oui.
La fameuse poisse.
Je vais vous parler de ça. La sorcière aux dents vertes, vous connaissez pas.
Non, bah oui, bah.
Venez, je vous explique. Vous allez,
19%.
Vous allez mourir moins bête ce soir.
T'as, plutôt que de t'as du boulot pour remonter.
Franchement, ça vous fait.
Attends,
vous
fait attends.
Le maillot de l'équipe.
Attends, en troisième position, il y a Pascal Duprat qui voulait nous parler de déclaration de Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France après l'arbitrage. Donc voilà, ça c'est le débat qui fait pour l'instant 29%. Tu n'es pas loin de celle qui pour l'instant domine ces débats. C'est Sarah Pitkowski avec son débat sur êtes-vous choqué que la Mannschaft cède aux sirènes des dollars, puisque désormais le maillot allemand sera un maillot signé Nike et non plus Adidas.
Je ne sais pas combien ils en vendent en France des maillots.
On aura l'occasion Mannschaft. Peut-être de faire ce
peut-être
débat
une
si
dizaine,
Sarah
une
continue
dizaine,
d'être non, en tête. Vous pouvez encore voter bien sûr jusqu'à, vous le savez, 11h45.
On va acheter un casque à point.
Et puis les grandes gueules du sport vous gâtent ce matin.
Mais c'est pas possible.
Ce week-end, on vous offre deux places pour les épreuves de paracyclisme au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines avec Hôtel F1, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous pourrez assister aux qualifications et aux finales hommes et femmes du contre-la-montre et de la poursuite. Pour remporter vos places, vous envoyez tout de suite vélo au 7-32-16. Vélo au 7-32-16. Allez-y, dès maintenant. Tout de suite sur RMC, ce proverbe. Un bon renard ne se laisse pas prendre deux fois à un piège.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le renard n'hiberne pas.
Je suis très fier d'être le coach de cette équipe. C'est mon pays.
Les renards peuvent creuser plusieurs trous dans la neige au sein de leur territoire. Quand la neige fond, ils déménagent.
Il est viscéralement attaché à la défense des maillots tricolores.
Le mâle a repéré une nouvelle proie. Un lagopède.
C'est un prêt qu'on n'avait pas vu venir. La Fédération Ivoirienne de Football veut Hervé Renard sur son banc de touche.
Le renard reste tapis dans les bois et le suit à distance grâce à son flair.
On a été un petit peu surpris parce que c'est quand même très rare de voir une fédération qui appelle une autre fédération pour prêter un sélectionneur.
Cependant, le terrain découvert empêche tout effet de surprise.
Tu vas où ? Reste là !
Voyant que le lagopède est hors de sa portée, il finit par abandonner.
L'information a été confirmée à RMC Sport tard dans la soirée. Hervé Renard ne partira finalement pas à la CAN.
Non mais je vous ai dit, je vais pas me flageoler tout seul.
Moi j'aime beaucoup ces petits documentaires animaliers glissés dans les grandes gueules du sport. Effectivement, le goupil, ça va être le sujet de ce débat, surtout Hervé Renard qui a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur après les Jeux Olympiques. En fin de contrat le 31 août prochain, il a annoncé son départ à la FFF en ajoutant qu'il retournerait dans le football masculin. Alors cette question, les GG, Hervé Renard qui quitte les Bleus après les JO, est-ce que c'est un désaveu pour le foot féminin? Denis Charvet.
Non.
Christophe Cessieux.
Oui.
Pascal Duprat.
Non.
Sarah Pitkowski.
Bah, je suis plutôt sur le oui.
Avant d'en débattre, bien, il a aimé Pascal.
Denis, t'es prêt, Denis? En fait, on prend la parole dans 10 minutes, hein, c'est Christophe qui attaque.
Vous pouvez rien prendre.
Avant d'en débattre, les amis, on va accueillir Jean Rességuier qui commente les matchs de l'équipe de France féminine sur RMC. Salut Jeannot.
Salut Jeannot. Les grandes gueules. Salut,
vous êtes en forme. Hein.
Ouais. Quand Hervé Renard a pris la tête des Bleus, Jeannot, c'était il y a presque un an, jour pour jour. Il venait avec la mission de faire progresser l'équipe. Est-ce que sa mission est réussie ?
Alors, même si Hervé Renard a apporté avec son staff élargi beaucoup de rigueur, de professionnalisme dans les séances d'entraînement, dans la préparation des matchs, avec beaucoup de vidéos et d'entretiens individuels, comme il l'a toujours fait avec les sélections qu'il a dirigées, malgré cela, l'équipe de France féminine n'a pas totalement franchi un cap au niveau des résultats. Il faut reconnaître qu'il a eu que 4 mois pour préparer la Coupe du Monde en Australie, c'est peu, qu'il n'a pas fait mieux qu'un quart de finale, et ce 0-0 face aux Australiennes éliminées au tir au but, et ce jour-là, on a pu constater ce qui fait encore défaut aujourd'hui chez les Bleus au féminin, un manque de réalisme devant le but, un manque d'efficacité qui affaiblit le pourcentage de réussite dans les grands rendez-vous. Et on a pu s'en rendre compte récemment avec cette toute nouvelle Ligue des Nations où après une première phase avec aucune défaite contre des nations modestes, Portugal, Autriche et Norvège, et malgré la qualification pour le Final Four, les tricolores n'ont pas su ou pu hausser leur niveau de jeu en finale contre l'Espagne, sans enlever tout mérite après la victoire face à l'Allemagne en demi-finale. Hervé Renard a réussi à donner plus de solidité d'un point de vue défensif, c'est une évidence. En revanche, c'est dans la création, la fluidité, l'efficacité que le sélectionneur va devoir faire progresser son groupe. Les éliminateurs de l'Euro dans un groupe relevé, Suède, Irlande et les champions d'Angleterre, titre d'Angleterre, juste avant les Jeux Olympiques, qui sera le plus gros défi de sa carrière d'entraîneur.
Merci beaucoup Jeannot. Évidemment, tu restes avec nous pour ce débat sur Hervé Renard. La question qu'on vous posait, donc les GG, c'est est-ce que c'est un désaveu le fait qu'Hervé Renard annonce la fin de sa collaboration avec l'équipe de France féminine après les Jeux ? Denis Charvet,
ben, son désaveu,
tu as dit non.
Non, mais non, parce que d'abord c'est son choix, c'est lui qui décide. On l'a appelé, pourquoi on l'a appelé ? Parce qu'il avait de la compétence, il avait aussi une renommée internationale, il a entraîné des sélections, il a été performant puisqu'il a gagné 2 fois la CAN, si je me souviens bien. Donc c'est quelqu'un qui avait un palmarès. Puis surtout, je trouve qu'il a redonné une belle image au foot féminin.
Bah, c'est justement pour ça.
Oui, mais d'accord, mais il a jamais dit je viens et je reste
oui,
pas.
Mais lui,
il a été clair, il a pas signé un contrat de longue durée.
Tu as raison, Denis. Tu as tout à fait raison, mais le fait que lui aujourd'hui dise je vais au bout de mon contrat et je cherche même pas à savoir, en tout cas je cherche même pas à négocier pour savoir si
mais parce qu'il est allé au bout de son au bout de son aventure à lui.
Mais elle a pas duré longtemps l'aventure
de
Denis.
Justement, parce que l'aventure, on lui a peut-être pas donné.
C'était un peu comme Denis à la grande époque, les aventures étaient courtes.
On va laisser parler Pascal par rapport à la technique, mais moi je pense que il a conscience qu'il a pas peut-être la qualité pour aller plus haut.
Je suis pas d'accord avec toi, tu vois.
Je sais pas faire, je vais m'en aller.
Alors, est-ce que vous imagineriez, alors, parce que la question, c'est des aveux pour le football féminin. Est-ce que vous imagineriez un sélectionneur français, masculin, décider au bout de 6 mois de quitter l'équipe de France de football ? Est-ce que Pascal, si t'es nommé sélectionneur de l'équipe de France, au bout de 6 mois, tu diras non, ça m'intéresse pas.
Non, mais là, c'est pas au bout de 6 mois. Il faut replacer les choses dans leur contexte, si vous permettez. Donc, je voudrais faire la genèse du recrutement, en tout cas, du choix d'Hervé Renard. Donc, Hervé Renard, il profite d'une opportunité, un putsch, aidé en cela par Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, pour virer Corinne Diacre. C'est bien ce qui s'est passé.
Oui.
Et ensuite, Hervé Renard, il bénéficie. Attention, c'est un très bon entraîneur qui a fait ses preuves. T'as très bien fait de le remarquer, Denis. Donc, il vient pour un an. Il a pas de qualification à assurer pour la Coupe du Monde, puisque c'est juste avant la Coupe du Monde en Australie. Et l'équipe de France est qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques. Deux compétitions internationales, majeures, en l'espace de même pas un an. Août pour l'Australie, et ça commence en juillet, je crois, pour la Coupe du Monde. Donc, il en a marre d'être en Arabie Saoudite, c'est ce que je j'ai cru comprendre. Il touche un saladier en Arabie Saoudite, mais il dit bon, je vais aller avec l'équipe de France féminine pour prendre l'air pendant ah, un an et surtout, l'air. Oui, pour respirer, oui, pour revenir jouer, en France, et puis surtout, ouais. surtout pour être, comment dire, sélectionneur de l'équipe de France. Lui, Hervé, qui ben en France, je dis pas qu'il a pas ouais, trop réussi.
Les JO,
attention,
c'est les JO qui le motive ben, quand même.
Ben, ce qui le motive, c'est justement ces grandes compétitions, ben oui. Et il a raison. Donc cela dit, il faut scinder le fait que Hervé Renard, ben, il veut reprendre son standard, à savoir, il va être demandé par toutes les sélections, et notamment africaines. Il va prendre de nouveau un saladier, une blinde. Et puis, ben, il a fait cette parenthèse avec l'équipe de France. Personne ne dit, parce que là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que l'équipe de France féminine a le niveau pour gagner la compétition.
Ah bon ?
Donc rien ne dit qu'Hervé Renard ne va pas gagner avec l'équipe de France féminine les Jeux Olympiques.
Tant mieux, hein.
Voilà. Donc non, on doit scinder les deux choses. Les filles, elles continuent à progresser. Elles ont encore progressé. Comme elles progressaient avec Corinne Diacre, elles progressent encore avec Hervé Renard.
Ah,
Hervé Renard,
il est tranquillisé. Elles sont championnes du monde en 2150, hein, je te le dis, moi.
Mais est-ce non, pourquoi tu dis ça? Non, cette année. Encore une fois, Christophe, tu as l'air d'être, comment dire, très vindicatif. Mais si t'as encore quelques ronds, on peut peut-être les parier, toi et moi, sur ce coup-là. Mmh. Tu comprends? Parce qu'Hervé Renard, peut-être qu'il va partir au même titre qu'Mbappé avec la Champions League. Peut-être qu'Hervé Renard, il va partir avec le titre de champion olympique.
Peut-être.
Attention,
attention. Ne perdons pas de vue qu'avec Corinne Diacre, ils sont allés en demi-finale du championnat d'Europe, ce qui n'était jusqu'alors pas arrivé, mais que une fois de plus, sur cette demi-finale, elles n'ont pas réussi à hausser leur niveau de jeu et être vraiment au top niveau international, leur permettant d'aller chercher un titre qu'elles n'ont à ce jour jamais obtenu. Meilleure post-performance, quatrième aux Jeux Olympiques avec Bruno Bini en 2012. Le problème aujourd'hui du foot féminin, c'est que avec
son Hervé Renard
ou avec un autre, c'est tout simplement de pouvoir utiliser des talents qui existent. Elles ont été championnes d'Europe en U19. Il y a des jeunes qui arrivent, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de joueuses du niveau des Espagnoles, pour parler d'elles, qui nous ont battus en Ligue des Nations et qui sont championnes du monde en titre et qui sont favorites des Jeux Olympiques. Il n'y a pas de joueuse capable de permettre à cette équipe de France de gagner au niveau
l'équipe de France féminine.
Je pense pas qu'il s'en rende compte vraiment parce qu'il n'a pas Amandine Henry pour l'Australie et pour la Ligue des Nations il n'a pas Wendy Renard. Il a deux cadres qui ne sont pas là et il pense à mon avis à ce moment-là qu'il a peut-être la possibilité avec des gamines qu'il a lancées et je pense à Vicky Béchaud par exemple, mais ça ne l'a pas fait. Il a eu la blessure de Cascarino, ça ne l'a pas fait. Aujourd'hui les Jeux Olympiques et les éliminatoires pour l'Euro qu'il va diriger, mais si ça qualifie, il sera plus là. Mais ces éliminatoires de l'Euro vont lui permettre de préparer avec un gros plateau les Jeux Olympiques.
Pourquoi on pose la question du désaveu pour le foot féminin? Parce que ça donne l'impression, et après je te donne la parole, Sarah, que entre ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, entre là, dire que je vais retrouver le football masculin, que finalement il est arrivé là pour se relancer, pour faire les Jeux Olympiques, mais ensuite je ne vais pas plus loin avec le football féminin.
Qu'est-ce que vous avez reproché à quelqu'un que vous êtes allé chercher et qui a rien demandé et qui en plus vient et qui a pas prolongé, je sais pas, fait un contrat de 3 ans?
Il vient pas quand même avec le frein à main, ou alors il y a un problème.
Mais c'est pas lui qu'on reproche en fait, Denis.
On va pas lui reprocher.
La question c'est de savoir si c'est un désaveu pour le foot féminin.
Exactement.
Donc moi je dis
ça,
c'est pas un désaveu pour le foot féminin.
Mais non,
je suis désolé parce que le foot féminin fait partie du quota du foot féminin mondial et rien ne dit que l'équipe de France ne peut pas gagner les Jeux Olympiques. Avant 98, on pensait qu'il fallait gagner.
Tu peux en placer une?
Vas-y.
Ouais, non, mais ils sont impossibles.
Tu peux en placer une?
D'en placer une.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Les autres, ils
ont rien à dire.
Entre Jeannot et Pascal, ils vont essayer d'en placer une.
Christophe Cessieux, arbitre.
Vous faites des contrôles antidopage avant les GG, là, pour Christophe Cessieux.
On aurait dû, on n'y aurait plus.
Vas-y, Sarah.
On va le piquer. On va les analyser. Non, mais le désaveu, comment je le perçois, c'est un désaveu, oui, du foot féminin, de la Fédération française de foot, parce que, en fait, la réalité de ne pas vouloir même rediscuter d'un potentiel contrat par la suite, ça sous-entend qu'en fait, cette équipe de France, elle n'est pas attractive, que le projet, il n'est pas attractif. Mmh. Évidemment qu'elles ne vont pas devenir championnes du monde en un claquement de doigts. Le foot féminin français, il part de tellement loin. Alors, évidemment, il y a eu des gros investissements avec cette Coupe du Monde, avec le fait que on essaie de mettre le foot féminin comme un sport aussi attractif que le foot masculin, mais il y a des années de retard. Et le fait qu'ils disent, au moment du tirage au sort des Jeux Olympiques, au fait, je vous annonce, le 31 août, je ne suis plus là.
Mais ça sera un désaveu s'ils perdent les JO.
Mais si ils gagnent les JO, ça ne sera pas un désaveu. Mais laisse le résultat de côté. C'est l'attractivité du foot féminin. Je vous rappelle que la Ligue 1, la moyenne des spectateurs, c'est 800 personnes dans les stades. Mmh. D'accord. Donc oui, le foot féminin aujourd'hui ne peut pas vivre.
Et ça, il le savait avant de signer.
Mais pourquoi
je pense qu'il y a une corrélation.
Pourquoi a-t-il signé, Pascal? Est-ce que il avait pas
pour les JO
l'objectif non seulement d'aller chercher la médaille d'or et ensuite pourquoi pas succéder à un sélectionneur national?
C'est une opportunité.
Là ou l'autre, un Deschamps ou un Henry.
Mais c'est relevé. C'est un vrai challenge.
Comme on lui a dit,
un vrai challenge.
On comprend plus rien.
C'est pour lui un vrai challenge. Dans la mesure où en France, il n'a pas toujours bien réussi. Ouais. Il a toujours eu des difficultés. Et c'est un vrai challenge de se retrouver à diriger une équipe pour une Coupe du Monde féminine, mais surtout pour des Jeux Olympiques, qui plus est, en France.
Un vrai challenge, est-ce que c'est un coup de.
Mais non, mais est-ce que c'est
un coup de lancé en l'air sur deux ans. Entraîner pendant deux ans, tu ne peux pas construire un vrai projet, essayer de t'avancer avec cette équipe.
C'est un coup d'image.
Qu'Hervé
Renard est
pour
égoïste.
Lui, c'est un coup d'image.
Mais oui,
pour la Fédé, c'est un coup de paillette.
Mais
évidemment, donc, c'est un désaveu pour le football féminin.
Pourquoi je dis que c'est pas un désaveu, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui l'équipe de France féminine rebondira après lui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un désaveu.
Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Mais
la question, je pense ça.
Le foot féminin aujourd'hui est plus fort qu'Hervé Renard.
Pourquoi choisir un coach qui veut uniquement se relancer? C'est ça la question.
Il n'avait pas besoin de se relancer, il voulait prendre un coup de lumière.
Il voulait prendre un coup de lumière.
C'est pour son image.
Donc il a signé pas pour les bonnes raisons.
Pour lui,
mais
il a signé.
Mais évidemment qu'il a signé pour ses raisons personnelles. C'est vrai que c'est.
Et il a bien fait.
Et tu ne peux pas le reprocher dans ce monde où il y a quand même.
On dit tous la même chose en fait. On est en train tous de dire la même chose.
Non, moi je dis la chose suivante. L'équipe de France féminine, vous sous-estimez la valeur du foot féminin. En France, de son niveau, le niveau de l'équipe de France.
On parle pas du niveau,
je suis désolé,
Jeannot,
je suis désolé. Il n'est pas certain, mais et ailleurs, laissez le temps au temps. L'équipe de France, pour ce qui est de l'attractivité, vous me parlez de l'attractivité, vous me parlez du niveau de l'équipe de France. C'est deux choses différentes.
Mais moi, Pascal,
l'équipe de France, elle peut gagner la Coupe du Monde.
Oui, bien sûr, Raymond. Mais je te dis,
les Jeux Olympiques.
Quand tu vois l'équipe de France jouer contre l'Espagne, elle est surclassée techniquement. C'est ce que vient de dire Jeannot.
Un coup de moins bien.
Non,
quand tu vois la...
mais t'es pas invité. Quand tu vois la première mi-temps de la finale de Coupe du Monde, des garçons.
Pascal, ils sont surclassés aussi.
Tu n'es pas invité.
Tu es désolé de quoi, Pascal?
Comment?
Tu dis, Jeannot, je suis désolé.
Non, je suis désolé. Je trouve que t'es trop catégorique. Cette équipe de France,
elle est un peu en dessous,
mais les Jeux Olympiques organisés en France.
Oui, c'est pas le débat. Écoutons la voix de la sagesse et nommons Pascal Duprat, sélectionneur de l'équipe de France.
Voilà, écoute, on vote pour Pascal.
Est-ce que tu irais, Pascal?
Figure-toi que.
C'est une bonne question. Est-ce que tu irais?
Pourquoi pas?
Est-ce que tu irais pour des bonnes raisons? C'est-à-dire faire progresser le football féminin? Et pas uniquement pour la lumière, comme tu l'as dit.
Pour faire progresser le football féminin, il faut davantage qu'une année à sa tête. Ça, on est tous d'accord.
Donc tu signes pour 4 ans.
Mais c'est donc pas... Quand Hervé Renard signe pour l'équipe de France féminine, ça surprend tout le monde dans le microcosme du foot. Vous êtes tous d'accord avec moi. Et ce qui a fait qu'il a signé, c'est parce qu'encore une fois, je vous le répète, il y avait les deux épreuves majeures concentrées sur une année, sans faire de qualification.
Mais il est opportuniste quand il signe, évidemment.
Et c'est aussi
c'est pas un manque de respect pour le foot féminin.
Mais c'est un manque de respect, oui et non, parce que c'est le monde du foot, ça veut pas dire que
c'est un désaveu du foot féminin. Moi, je prenais la question comme Hervé Renard, il s'en va parce que le niveau est trop faible. Non, c'est faux. L'équipe de France féminine a un très bon niveau.
Bon, alors, c'est quelqu'un qui est officiellement candidat.
Mais c'est vrai. Pascal, il est candidat à fond pour le foot féminin. Je pense qu'il faut qu'on l'accompagne et qu'il devienne le prochain sélectionneur de l'équipe de France de foot. Et Pascal, si tu veux de moi, je t'accompagne pour ta com pour que tu puisses être élu.
Avec plaisir.
La Marseillaise, Pascal. La Marseillaise, s'il vous plaît.
Et moi, j'irai couper les
fils.
Pour
la Marseillaise.
Pour Pascal Duprat, quand même. La Marseillaise, Alban. T'es en retard.
Oh, mais.
Fous-moi la Marseillaise pour Pascal.
Vous êtes vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.
Voilà.
Pascal, fais un goût.
Ah, les frissons, Pascal. Hein.
Ah, ouais, frissons.
Passe à ta première sélection, Pascal.
Et ça va secouer dans le ciel.
Alors, Pascal, officiellement candidat, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on note, pour la succession d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine. Ah, ouais. On est d'accord.
Ah, ouais. Vestiaire aussi, quand
même. Magnifique.
Ah, vous habillez les gens facilement, vous.
Non, tu l'as dit,
Pascal, tu sais quoi, je pense que c'est une grande idée.
Ouais. 11h25 sur RMC, on va prendre Salis qui a fait le 32-16 sur ce débat. Salut, Salis.
Salut, les grandes gueules. Bonjour, vous allez bien?
Bah, ça va très bien.
On a nommé Pascal à la tête de l'équipe de France féminine.
Voilà. Grande nouvelle.
Bah, pourquoi pas, au moins, avec ses discours à la mi-temps et tout, peut-être qu'il va vraiment bien les bouger et peut-être qu'il nous fera gagner des compétitions, pourquoi pas.
Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce débat, justement?
Bah, en fait, moi, personnellement, par rapport à Hervé Renard, que je connais bien par rapport à son historique en Afrique et ailleurs, moi, je comprends pas pourquoi. Je suis sûr et certain, même plutôt, je dirais, que ce débat n'existerait pas si c'était pas le football féminin. Tout simplement parce que des cycles, on en a toujours eu. Je prends l'exemple actuel de Julian Nagelsmann, le coach de la Nationalmannschaft, donc l'équipe allemande de foot, qui aujourd'hui est en poste. Pourquoi il est en poste? Parce que Hansi Flick, l'entraîneur, a été renvoyé et il a pris la succession pour un cycle court pour les emmener jusqu'à l'Euro. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien. On sait tous qui va prendre un club en été et il n'y a aucun débat. C'est un cycle court, ça a toujours existé dans le foot. Des coachs qui prennent des sélections pour un cycle, pour les emmener à un événement et c'est terminé. Il n'y a pas de débat. Là, aujourd'hui, ce débat, il existe uniquement parce que c'est du foot féminin. Je peux continuer avec Otmar Hitzfeld qui l'a fait avec le Bayern. Je peux continuer avec énormément de clubs
féminins
et c'est un débat qui n'existe pas. Là, le débat, il existe uniquement parce que c'est du foot féminin et ce n'est pas un désaveu du foot féminin qui est en pleine expansion. On voit bien que les salaires, par exemple, augmentent de manière incroyable en Espagne, avec les clubs comme le FC Barcelone, mais le Real Madrid.
On est d'accord là-dessus, Salis, mais est-ce que fait de se servir de football féminin pour uniquement se relancer, justement, ce n'est pas un désaveu? Il ne le referait pas avec une autre équipe, c'est ça qu'on disait depuis le début.
Excusez-moi, mais je pense que Hervé Renard n'a absolument pas besoin du foot féminin.
Voilà, je suis d'accord avec toi.
Dans la simple et bonne raison de.
En France, je ne suis pas d'accord avec toi. En France.
Aujourd'hui, la fédération sénégalaise, qui est la meilleure équipe d'Afrique, lui fait des pieds et des mains pour qu'il prenne la succession d'Aliou Cissé. Après ses prestations qu'il a fait à la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite, le Maroc et tout ce qu'il veut, tout le monde le veut.
C'est peut-être pour ça qu'il s'en va.
Non, mais.
Et surtout, pour terminer, Philippe Diallo, c'est lui qu'il faut peut-être voir, parce que quand il y a eu les contours du contrat, c'est lui qui a été mis. Et il le savait très bien qu'Hervé Renard allait partir juste après les Jeux Olympiques. Bon, il n'y a pas eu de mauvais
Ça peut vélo. Après se négocier, hein, c'est ce qu'on disait. Hein, même si la fin de contrat est après les Jeux, tu peux toujours négocier un contrat, Salis. Denis, tu voulais répondre à Salis?
Non, je suis.
D'accord,
non.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Salis, en tout cas, d'être venu. N'hésite pas à revenir dans les GG. Merci beaucoup, Jeannot.
Ça ne devait pas être important.
Merci. Et n'oubliez pas qu'on vivra les tournois masculins et féminins des Jeux Olympiques en direct sur RMC l'été prochain.
Radio merci officielle Jeannot. Des Jeux Olympiques RMC. Et ce soir, il y a France.
On se retrouve ce soir pour France-Allemagne.
Bien sûr, avec toi, 21h, en direct sur RMC. On revient dans un instant, les GG, avec le débat caché. Et oui, ils ne savent rien, mais ils vont devoir débattre. Vous connaissez la chanson. C'est tout de suite sur RMC. Restez avec nous.
RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h33 sur RMC, merci à tous de nous écouter en direct jusqu'à midi, les grandes gueules du sport avec aujourd'hui Denis Charvet, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque, vous avez tous les quatre proposé un débat. Et vous qui êtes chez vous, vous votez pour votre débat préféré, ça se passe sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, il y a un duel au sommet, je ne dis que ça, entre Sarah et Pascal. Donc c'est encore très serré, ça peut encore évoluer jusqu'à 11h45. Mais tout de suite, c'est l'heure du fameux débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien. Le guet-apens du jour, parce que c'est un véritable guet-apens, c'est ça.
sacré. Jasper Philipsen complète le podium. Michael Matthews et il me semble Tadej Pogacar termine troisième de cette course extraordinaire. Et Tadej Pogacar, le premier réflexe en franchissant la ligne, c'est un immense sourire. C'est je vais féliciter Jasper Philipsen, je vais féliciter Mathieu Van Der Poel. On aurait eu presque l'impression que c'était un coéquipier d'Alpecin Phoenix aujourd'hui. Vraiment, ce garçon a quand même quelque chose en plus, même si aujourd'hui il n'a pas réussi à s'imposer.
Arnaud Souk, commentaire de Milan Sanremo, c'était la semaine dernière sur RMC où Pogacar, troisième, a chaleureusement, vous l'avez entendu, félicité le vainqueur Jasper Philipsen. Accolade, sourire, mots sympas échangés après la course. Des images qui n'ont pas plu à Lance Armstrong, l'ancien cycliste interrogé sur une chaîne YouTube, a déclaré ceci.
Cette génération maintenant, ces gars-là se rendent coup pour coup. Et celui qui gagne attend après la ligne d'arrivée. Et putain, ils se font des câlins. Je suis là genre, quoi ? Tu attends là pour que vous puissiez tous vous faire des câlins juste après avoir perdu ? Je ne dis pas que notre génération, c'était la bonne manière de faire, ni que j'étais fier. Je pense que ça peut être sympa à voir, mais ce n'était pas comme ça pour nous. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je pense que les courses de notre génération étaient meilleures.
Lance Armstrong, donc, sur YouTube, qui nous offre ce débat. Les GG, faut-il forcément se détester pour offrir une bonne rivalité sportive ? Oui ou non ? Je vois les yeux de Sarah là, je vais la laisser réfléchir deux secondes. Christophe ?
Non, et Pogacar le prouve.
Pascal ?
Non.
Denis ?
Non.
Sarah ?
Mais non.
On a un beau débat là, en perspective.
Ah ouais, là.
Le débat caché, t'aurais dû nous le dire avant.
Non, dis alors.
Tu rigoles, Pascal.
Tu pourrais remettre en question si tu nous fais dire. Enfin, en tout cas, si ces propos sortent de la bouche d'un sportif,
oui, voilà, c'est ça.
Adulé, mais alors de sa bouche.
Oui, mais oublier Lance Armstrong.
Oui, mais t'es obligé
d'oublier Lance Armstrong.
Oui, mais tu veux parler de
son bord. Je vais donner des exemples.
Il sort des trucs souvent intéressants.
Oui,
pas grave, je vais être
contre le débat.
Donc, pour une bonne rivalité sportive, faut pas forcément se détester, monsieur Pascal Duprat.
Non, il faut se détester l'espace de la compétition. Voilà. Tu dois, ben ton, oui. tu es ton adversaire, mais tu vas employer des moyens licites pour pas venir à tes fins. Donc c'est pour ça qu'Armstrong il est disqualifié. Moi je l'écoute pas, je le déconsidère ce qu'il dit. Cela dit, une fois le verdict tombé, on se doit d'être fair play. Et ça aussi c'est beau à observer les pentes du Poggio ne sont pas faites cadeaux. Tu m'arrêtes, Christophe, si je me trompe, mais la course, elle était magnifique. Et puis, une fois la ligne franchie, il accepte sa défaite. Il sait qu'il gagnera la prochaine fois. Il pense qu'il a tout donné et ça ne gâte rien de féliciter le vainqueur.
Alors, on oublie tout ce qui est trash talking, un petit peu.
Ça fait partie du.
Oui, ça, c'est le folklore.
Ouais, c'est du folklore aussi.
Ah, c'est que du folklore. Il n'y a jamais eu de rivalité.
Pas toujours, mais bon.
Moi, je pense que Pogacar est quand même un cas particulier dans le monde du cyclisme, dans le peloton, parce qu'il y en a d'autres et d'autres grands champions actuels qui partiront sûrement pas en vacances ensemble. Si tu mets Van Aert et Van Der Poel, dont je voulais vous parler, j'avais un super truc à vous raconter, ouais, mais vous en voulez pas, tant pis pour vous. Van Aert et Van Der Poel, l'année dernière. Ah,
tu vois, ça m'aurait intéressé, Christophe.
Vous en parlez après l'émission.
Tous les trois sur un fauteuil avec Ganna. Et l'ambiance était glaciale.
Ah,
il ne s'adressait pas un mot. Il se tapait pas dans le dos. Il ne rigolait pas. Oui. Il ne parlait pas de la course. Ces deux-là, ils se détestent.
Et on a envie de les voir.
Donc c'est tu vois, je pensais Van Aert et Van Der Poel. Je les pensais proches, moi.
C'est les plus grands rivaux de la Terre.
Et d'accord.
Et c'est pas génial,
mais
ça donne pas encore plus de piment à leur rivalité.
Mais non, parce que moi, j'adore le piment que met Pogacar. C'est-à-dire qu'il va leur foutre des trempe et ils se gênent pas pour leur mettre des tôles à tous, hein, ils les humilient sur la route, mais une fois que la ligne est franchie, soit il a perdu et il va féliciter le vainqueur et il rigole avec lui, il revient en bagnole.
Non mais ce qu'il a fait l'autre jour, il s'est arrêté
de l'autre côté de la principauté avec Michael Matthews qu'il a battu pour un rien, il essaye de faire du lobbying auprès de Philipsen pour le faire revenir au sein de l'UAE. Ce garçon là,
est-ce qu'il a
il
fait la
sur un vélo, mais quand il est sur son vélo, c'est un tueur. Mais une fois qu'il le pose,
je vais vous donner un contre-exemple absolument flagrant. Je vais juste vous donner les noms.
En tennis. Tu vas nous dire Nadal, Federer.
Exactement. Est-ce qu'il y a besoin d'être agressif ou de ne pas respecter son adversaire? S'il y a bien une démonstration de deux mecs qui se sont tirés la bourre, que ce soit sur le court ou dans le palmarès, et qui ont depuis le début.
Ouais, mais Djoko,
bah, c'est encore pire. Djoko, tu sais quoi,
ouais, je suis d'accord avec la remarque de Denis.
Tu as des exemples pour l'un ou pour l'autre. Pareil, tu n'as donc pas besoin de te détester pour t'affronter. Bien sûr qu'il y en a.
Non, mais le tennis, c'est un sport où c'est propre sur eux. Vous êtes propre sur vous. Si tu parles de boxe, par exemple, si tu parles de boxe, Tyson, il ne peut pas faire des bisous à son adversaire.
Mais c'est un sport d'opposition et ton adversaire, il est en face de toi.
Il y a des joueurs qui se nourrissent quand même d'une adversité. Djokovic, par exemple, il adore ça.
Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas se nourrir de ça, mais il y a plein d'exemples. Sympa. Il n'y a pas que le fait de se détester pour pouvoir s'affronter. La preuve en est que pendant plus de 15 ans, ces deux-là étaient au sommet de la hiérarchie mondiale et que dès qu'on pouvait parler de l'un ou de l'autre, ils le faisaient. Quand il y avait une inauguration à l'autre bout du monde d'une académie ou pour l'association de Federer, Nadal prenait l'avion jusqu'en Afrique du Sud et il allait à côté de Federer. Donc en fait, ce sont deux adversaires.
Oui,
exactement.
La semaine dernière, on évoquait le cas de France-Angleterre, le crunch.
Bah justement, je voudrais entendre Denis là-dessus, parce qu'il y avait quand même une vraie détestation.
Oui, mais alors la détestation, elle a été sur le terrain.
Parce que le sport est propice.
C'est Christophe qui le disait l'autre jour. Oui, mais justement, ça dure le temps du combat.
Bien sûr.
Mais après, on se serrait la main. Il y avait des haies d'honneur. Tu as vu encore samedi dernier. Ils ont pris une haie d'honneur. Mais moi, j'ai revu des Anglais après, bien plus tard. Je revois encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas de détestation outre mesure, au contraire même. Donc je veux dire, il y a quand même, nous en rugby c'est différent.
Vous saviez pas, d'un petit peu, de ce côté-là, de ce côté rivalité, voire même haine, entre guillemets, sur le terrain, mais
c'est pas pour ça que comment te dire qu'on se détestait humainement, quoi.
Oui,
je crois que c'est une grande différence, c'est-à-dire que il faut pas déborder, en fait. Je crois que c'est bien d'avoir de la haine, et encore que la haine, j'aime pas ce mot. D'essayer de trouver des ressorts à l'intérieur de soi pour se sublimer.
Mais il faut aller chercher Armstrong quand il dit ça, et puis lui il explique même que il l'a manipulé un peu, cette haine, en lisant des articles, etc., aux uns et aux autres pour justement.
Ouais, mais
moi je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont besoin de se nourrir de ça. Je pense que tu parles de Djokovic, qui effectivement est le symbole même, mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont obligés de rentrer dans ce conflit pour se sublimer, d'aller au-delà.
Après, un garçon comme Emiliano Martinez, on n'a pas besoin de se faire une grosse préparation.
Le gardien de l'Argentine,
de lui mettre des tacles à la carotide.
Prochain France Argentine, il y aura sans doute un petit peu de, alors peut-être pas de haine, mais en tout cas c'est la nouvelle rivalité du foot.
Mais là encore, tu parles encore une fois de personnalité. Les Argentins, c'est une personnalité à part. C'est des joueurs au sens
qui aiment bien se nourrir de ça.
Voilà, qui adore ça. Donc, si tu veux,
c'est encore. La conclusion, c'est propre à chacun.
Oui, c'est propre
à
chacun.
Il peut y avoir une règle.
Complètement.
C'est tributaire des sports, c'est tributaire selon si le sport est individuel ou collectif.
Mais Armstrong, lui, détestait tout le monde. C'est simple, à un moment, il n'était pas lui-même,
Christophe.
Il respectait personne. Non, parce que tu peux détester tout le monde et tu peux aussi manquer de respect.
Il partait en échappé. Il leur disait maintenant, tu rentres dans le peloton. Tout ça parce que le mec avait témoigné contre son médecin.
Non, mais il écrasait tout le monde, le problème.
Je vais tenter un truc. Si je vous repose la question, faut-il forcément se détester pour offrir une bonne rivalité sportive ? Vous me dites toujours la même chose ?
Toujours non pour moi. Non.
Ah, il ne fait pas changer
Christophe.
D'avis.
Ah, Christophe, il est là, il doute. Là, il tangue. D'accord, on a perdu Christophe.
Il n'est pas allongé sous le bureau, mais il n'est pas dans
son état normal, Pascal. Tu l'as bien remarqué depuis le début de l'émission. Allez, tout de suite, on se retrouve pour les GG contre-attaque. 4 débats soumis au vote. Un seul vainqueur. La réponse dans un instant. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, 11h46, c'est jusqu'à midi, vous le savez, à retrouver en podcast dès maintenant sur l'appli RMC avec Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Pascal Duprat. Qu'est-ce qui se passe ?
Il mange encore
Christophe Cessieux, oui, mais il a besoin de manger avant qu'il prenne des forces. Avant de retrouver les paris RMC, c'est à midi, et toutes les meilleures cotes, notamment sur France-Allemagne, le match de prépa à l'Euro pour les Bleus ce soir. On va accueillir un gagnant, Didier est avec nous. Salut Didier.
Oui, bonjour.
Tu as gagné deux places pour l'épreuve de paracyclisme au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Ça se passe le 31 août. Tu pourras assister au qualif et au final hommes et femmes du contre-la-montre et de la poursuite. Bravo Didier. Tu vas y aller avec qui? Tu sais déjà?
Eh bien, super, c'est une bonne nouvelle. Avec mon épouse.
Avec ton épouse, ok. Donc tu es d'où toi Didier?
Marmande, dans la 47.
Ah non, il va falloir faire le petit déplacement jusqu'à 50 ans en Yvelines. Ça va, il n'y a pas de problème?
Non, pas de soucis, non.
T'as le temps cet été.
Voilà.
Bon, ouais. Super. Merci en tout cas et bravo encore. Tu es le gagnant du jeu du jour.
Les Grandes Gueules du Sport sur RMC avec Hôtel F1, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
RMC. Les GG contre-attaque.
Vos GG vous ont fait 4 propositions de débat sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. C'est le moment du verdict, les votes sont clos. Quatrième et dernier, Denis Charvet, pour son débat sur Luis Enrique sur Twitch, qui a déclaré sa flamme à Barcelone. Voilà, 16%.
Très déçu.
Déçu?
Oui.
Tu t'attendais à mieux. Hein.
Beaucoup mieux.
Ouais.
Bah, elle n'est pas mieux que 16%, moi.
Ne rigole pas trop, Christophe. Tu es troisième sur l'histoire de sortir au Danvers.
J'ai perdu ma
tout donné.
Mais non, mais personne.
Autour de vous, Van Aert. 19%.
Personne n'a voulu comprendre ce que c'était que la sorcière aux dents vertes. Ah. J'aurais appris des choses plutôt que le t-shirt de la Manchap dont on n'a rien à faire.
C'est faux, Christophe.
Non,
ce
mais
que
c'est
tu
parce
dis.
Que t'as pas eu le temps.
Non, mais tu vas nous parler de Adidas et de Nike, de l'économie.
Attends.
Du
libéralisme. Alors, donc j'ai perdu alors.
Qui envahit le
sport. J'ai perdu alors.
Voilà, t'as
perdu, Pascal,
tu as perdu. Mais tu t'es bien battu. Deuxième place avec ton débat sur l'arbitrage France-Afrique du Sud. 30%. Fabien Galthié qui s'est exprimé à nouveau sur l'arbitrage de Monsieur O'Keefe en quart de finale de Coupe du Monde. Bravo quand même, belle deuxième place.
Oui, et bravo à Sarah. Donc.
Et bravo donc à Sarah Pitkovski qui remporte la première fois que tu gagnes.
Non, la deuxième.
Modestement. Avec son débat
mais je
sur.
Je suis sûr que vous allez avoir un avis. J'ai besoin de votre
de
avis.
De la Mannschaft qui est donc
c'est
passée
pas juste une histoire de gros sous. Oui. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, la marque Adidas a été créée au sorti de la Seconde Guerre mondiale par les frères Dassler. Cette marque aux trois bandes a été portée par la National Mannschaft depuis 70 ans. Et pourtant, il y a eu des appels d'offres, parce qu'il faut faire des appels d'offres. Mais Nike n'avait jamais réussi jusque-là à shipper la Mannschaft. Là, ils ont tapé fort. Très, très fort. Avec 100 millions d'euros sur la table, la fédération allemande n'a pas pu refuser cette offre qui est deux fois plus importante que le montant du dernier appel d'offres qui avait été remporté par Adidas. Alors, outre Rhin, il faut comprendre que c'est un véritable choc. C'est même une affaire d'État au point que différents membres du gouvernement s'offusquent ou en tout cas ne comprennent pas que finalement la fédération allemande est cédée au dollar du géant américain. Et pour vous donner une petite phrase, le gouverneur de Bavière, donc le berceau d'Adidas, dit « L'équipe nationale qui joue avec les trois bandes, c'est aussi clair que le ballon est rond » et qu'un match de foot fait 90 minutes. Et donc, je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes, un, nostalgique d'une Mannschaft qui ne jouera plus sous la couleur des trois bandes avec ce maillot qui est plus qu'historique? Et est-ce que vous comprenez que dans ce genre de situation, dans des histoires aussi fortes, qu'il faille céder au dollar? Voilà.
Très bonne question. Ils ont l'air inspirés, hein. Les amis. Non, mais Denis.
Non, mais qui,
le dollar fait bûcher, Sarah, quoi.
Fait partie de l'équation, Sarah. Je te trouve un peu naïve par rapport au dollar. Comment Adidas peut se faire prendre le marché?
Parce qu'il y a quelqu'un qui met plus d'argent.
Mais c'est ce que je dis. Donc, il n'y a pas de débat, pour moi.
Ok, on va gagner plus d'argent, mais d'un autre côté, on a l'histoire.
C'est pas comme si c'était une marque qui est inconnue. Nike, c'est une marque qui est très connue, mondialement connue.
Oui, mais c'est pas une histoire de marque.
Mais
on ne connaît pas ça. J'ai cherché en fait un exemple d'une autre équipe nationale avec une marque qui est viscéralement attaché parce que national, on ne connaît pas ça en fait.
Non, mais j'entends, moi je suis très nostalgique parce qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, il y a une trentaine d'années, j'avais, ou 40 ans même, j'avais acheté le, j'avais commandé le maillot de l'Allemagne. Donc, aux trois bandes. Non, mais c'est vrai, c'est.
Au lendemain de France-Allemagne 82, j'ai commandé.
Absolument.
Je l'ai brûlé dans mon jardin et j'ai eu des flèches dessus.
Incinéré dans ton jardin.
Et d'ailleurs, il a fait la même coupe de cheveux que le gardien de but Schumacher.
Avant 82, parce que j'avais 14 ans, 13, 14 ans, et j'adorais l'équipe d'Allemagne. Ouais. J'adorais ce maillot, et j'avais commandé le maillot. Donc, je suis très nostalgique de ce maillot de tes trois bandes, c'est sûr. Hein. Ça va être un changement incroyable, mais bon.
Mais après, c'est un fleuron. Je suis pas étonné, on le dit, quoi, c'est un fleuron de l'industrie allemande aussi.
Effectivement, ça, voilà. Quasiment donc, industriel.
Donc, non, mais vous avez vu ce que Adidas en a fait ces dernières années. De ce maillot qui était d'une beauté totale. Moi, je me rappelle du maillot allemand des années 70, tout de blanc vêtu, avec juste le col et le gros aigle sur le cœur. Il était magnifique. Ouais. Aujourd'hui, voilà, quand c'est tu le choix n'est les pas maillots esthétique. Faits par Adidas. Oui,
mais c'est pas pour ça qu'ils ont annulé Adidas. C'est un Nike qui vont peut-être pas faire mieux.
Est-ce que vous pensez que la fédération aurait dû refuser au titre du fait que ça soit effectivement un fleuron de l'industrie allemande, l'offre de Nike, et de dire on continue avec Adidas.
Est-ce qu'on aurait dû refuser McDonald's pour prendre...
C'est pas la même chose. Je fais appel à votre nostalgie et à l'histoire du foot.
À ce moment-là, comment Adidas n'a pas trouvé, ou la fédération n'a pas trouvé une solution avec Adidas? Je ne sais pas, un compromis.
Si tu dis que c'est du simple au double, 50 millions Adidas et 100 briques Nike, c'est...
Tout le monde, il y a que l'argent qui compte.
Il y a que l'argent qui compte.
Non, attends, je voulais justement, j'attendais que tu rebalances sur le foot. Ah. Christophe, cite-moi un sport. Ouais. Où aujourd'hui.
Où on gagne plus qu'au foot.
On privilégie l'histoire au fric. Mais même tous les sports que tu adules, que tu adores. Mais au vélo, ils font quoi? Aujourd'hui, on est dans un monde où le sport, c'est l'argent.
Mais le foot étant le sport ultime, le sport qui trimballe le plus d'argent.
Le sport ultime, l'argent.
Dans le libéralisme le plus sauvage, dans les contrats complètement hallucinants, dans la vente.
Le vrai sport,
c'est un équilibriste,
Christophe. Il retombe toujours sur ses pattes.
Non, mais Pascal, le vrai sport avec ses valeurs, c'est quand même le rugby.
Ouais. Oui, j'adore le rugby, mais vous échappez pas à la règle.
Non, bien sûr.
Donc le pognon avant tout, c'est comme ça.
Ta remarque,
elle a du sens.
C'est un bon débat qu'elle a lancé, mais en même temps, si on était trop naïf, je pense que.
Mais j'ai l'impression que vous avez été très naïf dans cette émission là.
On a le droit de changer d'équipementier.
Oui.
Et ça n'a pas posé plus de problèmes que ça.
Mais l'histoire, c'est différent. Là, en fait, effectivement, à chercher quelque chose à comparer, on ne peut pas. C'est incomparable. Oui, en fait. Là,
parce que tu veux mettre en exergue le nationalisme allemand.
Non.
Parce que l'Allemagne, la Mannschaft, était vraiment adossée à Adidas. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, je voulais faire une dernière remarque. La prochaine fois, les auditeurs, votez pour moi. Au moins, le débat sera intéressant.
Non, c'est à quelques secondes de la fin.
Pardon, Sarah.
Bravo, Sarah, c'était super. Tu as mérité ta victoire. Quelle honte. Ça, c'est pas fair play du tout. C'est moche. Merci beaucoup. En tout cas, les GG, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain, 9h30 midi, en direct sur RMC. Merci, Pascal.
Moi, j'arrête.
Merci, Sarah. Merci, Christophe. Denis, je te garde avec moi pour les paris RMC. On va parler encore d'argent. Tiens, c'est tout de suite avec les meilleures cotes, notamment sur France-Allemagne. Restez avec nous. On revient tout de suite sur RMC.